la compétence qu'elle exerce de maîtrise de l'immigration. Et chacun peut comprendre que c'est sans doute plus efficace si on protège ses frontières extérieures plutôt que de se replier dans son cadre national pour limiter ou pour accueillir une population migrante. Donc c'est à l'échelle de l'Europe, et c'est en sorte que le combat contre l'extrême droite peut être, à mon avis, efficace, c'est à l'échelle de l'Europe qu'on peut avoir une politique migratoire faite à la fois de règles, l'accueil de demandeurs d'asile, de responsabilité, la répartition de ces demandeurs d'asile, et aussi le reflux lorsque nous considérons qu'une partie de ces migrants ne peuvent pas rester sur le territoire européen. Donc l'Europe, elle peut expliquer, c'est l'objet finalement de ce que nous essayons de faire, elle peut expliquer qu'elle est la plus compétente, la plus efficace pour limiter et pour encadrer l'immigration et pour aussi assurer son devoir moral d'accueillir des populations qui sont en danger. Deuxièmement, sur les valeurs, et vous avez raison d'évoquer un certain nombre de pays membres de l'Union européenne qui se sont écartés des principes qui, finalement, étaient constitutifs de l'Union européenne. Prenons l'exemple de la Hongrie d'Orban, même de la Slovaquie aujourd'hui, peut-être d'autres pays. On verra ce que donne effectivement la politique de Mélenchon, jusqu'à quel point elle compte aller. Et il y avait quelque chose de paradoxal, pourquoi l'Europe était capable d'infliger des sanctions à des pays qui ne respectent pas les critères budgétaires, les règles de la bonne conduite économique, et était finalement assez frileuse pour infliger des sanctions à des pays qui s'écartaient de ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire des droits humains ou de la séparation des pouvoirs. Mais là, ça dépend aussi de la Commission européenne et des États membres. Moi, je suis très inquiet quand je vois que même sur l'aide à l'Ukraine, des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, c'était également pour d'autres raisons la Pologne, étaient réticentes à accueillir non seulement des populations venant d'Ukraine, mais des produits venant d'Ukraine, ou pour Orban, de bloquer les aides à l'Ukraine sur le plan militaire. Alors comment l'Europe doit-elle s'affirmer? Elle doit s'affirmer aussi politiquement à l'extérieur, et c'est pour moi une des faiblesses de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas véritablement de politique extérieure, même s'il y a un haut représentant de la politique de sécurité commune, mais elle n'a pas de politique extérieure parce qu'elle n'a pas de politique de défense. Et là, que ça nous plaise ou pas, l'Europe, elle doit se constituer aussi sur le plan de sa défense. Si elle veut se faire respecter des régimes autoritaires qui peuvent mettre en cause les frontières, et se faire respecter aussi quand elle prend des positions, notamment sur la question du conflit israélo-palestinien. La parole de l'Europe n'est pas simplement une parole incantatoire. Il faut qu'elle soit une parole qui puisse être éventuellement suivie d'actes. Et c'est pour ça qu'un des grands enjeux des élections européennes, c'est bien sûr de savoir comment on va gérer le marché, la politique agricole commune, savoir comment on va signer ou pas des accords commerciaux. Tout ça fait partie du débat habituel. Mais il faut y ajouter maintenant la question de la défense européenne. Ce n'est pas une question simple pour la France qui considère qu'elle a une politique de défense et qu'elle ne peut pas la partager, pour les Allemands qui n'avaient jusqu'à présent pas la volonté de construire véritablement une défense et consacrer un effort militaire. Pas facile non plus pour des pays comme la Belgique qui commandaient leurs armements aux États-Unis plutôt qu'à des partenaires européens. Donc voilà, ça va être un grand sujet, mais on ne peut pas avoir une politique extérieure si on n'a pas, à un moment, des moyens de son ambition et des valeurs à défendre.